Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La supplication » de Svetlana Alexievitch est une œuvre documentaire et littéraire consacrée aux vies bouleversées par la catastrophe de Tchernobyl. Publiée en russe en 1997, puis traduite en français par Galia Ackermann et Pierre Lorrain, le livre ne vise pas à reconstituer techniquement le déroulement de l'accident nucléaire. Il s'attache plutôt au monde qui lui succède, marqué par la contamination, les déplacements, la maladie, la peur et la perte des repères ordinaires. Alexievitch compose un récit polyphonique à partir de paroles de survivants, de pompiers, de liquidateurs, de soignants, de villageois, de scientifiques et de proches des victimes. Ces voix ne produisent pas une enquête administrative ni un essai militant au sens strict. Elles rendent sensible une expérience humaine que les chiffres et les récits officiels saisissent mal. La force du livre tient à cette écoute organisée en composition littéraire qui interroge la mémoire, la responsabilité collective et les limites du langage face à une catastrophe durable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une polyphonie qui remplace le récit unique de la catastrophe. La structure de la supplication repose sur une succession de monologues et de témoignages. Ce choix refuse de réduire Tchernobyl à un événement résumé par une date, un bilan ou une explication scientifique. Chaque parole montre un angle situé de la catastrophe, le travail dangereux des liquidateurs, la détresse des familles, la transformation des campagnes contaminées, les incertitudes médicales ou la désorientation des habitants déplacés. La pluralité ne signifie pas que toutes les versions se valent sur le plan factuel, elle met plutôt en évidence que la catastrophe excède toute expérience individuelle et toute narration centrale. Les témoins parlent depuis des positions sociales, affectives et professionnelles différentes, ce qui fait apparaître des contradictions, des silences et des incompréhensions. Un même phénomène peut être perçu comme un devoir patriotique, une menace invisible, une faute politique ou une rupture intime. Alexievitch ne transforme pas ses voix en personnages de fiction dotés d'une intrigue continue. Elle les agence pour faire entendre des rythmes de parole, des obsessions et des blessures. Cette méthode donne au lecteur une essence sensible des conséquences de Tchernobyl. Elle déplace ainsi le centre du livre, la centrale détruite reste essentielle. Mais le véritable sujet devient la manière dont des individus tentent de vivre dans un monde dont les règles sont devenues opaques. Deuxièmement, la radioactivité comme menace invisible et quotidienne. Le livre insiste sur une difficulté propre à Tchernobyl, le danger ne se voit pas directement. La radioactivité modifie le rapport aux gestes les plus ordinaires, tels que manger, cultiver la terre, boire de l'eau, élever des enfants ou se promener dans une forêt. Cette invisibilité produit une anxiété particulière, car les repères sensoriels habituels ne permettent plus de distinguer ce qui est sûr de ce qui est contaminé. Les habitants doivent se fier à des informations techniques souvent incertaines, tardives ou contradictoires. La catastrophe cesse donc de paraître exceptionnelle pour devenir une condition durable de l'existence. Alexievitch montre que la contamination atteint aussi le temps, les effets redoutés peuvent se manifester bien après l'exposition, tandis que les familles doivent prendre des décisions immédiates sans disposer de certitudes. Cette temporalité longue rend insuffisante une vision de la catastrophe limitée au jour de l'explosion ou aux opérations d'urgence. Le texte fait également ressortir le décalage entre le langage administratif des seuils, des zones et des mesures, et l'expérience concrète des personnes concernées. Sans rejeter le savoir scientifique, il rappelle que celui-ci ne répond pas seul aux questions de deuil, de confiance et de continuité de la vie quotidienne. La radioactivité devient ainsi le signe d'une rupture matérielle et mentale profonde. Troisièmement, le coût humain des institutions soviétiques et du silence officiel. La supplication aborde les conséquences humaines de la gestion institutionnelle de la catastrophe sans se réduire à un acte d'accusation univoque. Les témoignages font apparaître des informations incomplètes, des injonctions contradictoires et un langage officiel parfois incapable de nommer clairement le danger. Dans ce contexte, la confiance envers les autorités, les médecins et les experts est mise à l'épreuve. Certains individus accomplissent des tâches dangereuses au nom du devoir, de la discipline ou de la nécessité collective, avant de mesurer la portée de leur exposition. Des autres se heurtent à des procédures qui transforment leur souffrance en dossiers, en statistiques ou en problèmes de gestion. Le livre ne prétend pas fournir une histoire exhaustive de l'appareil soviétique. Son apport consiste à montrer comment une catastrophe technologique révèle les fragilités morales et politiques d'un système fondé sur le contrôle de l'information. Le lecteur observe les effets intimes de cette situation, sentiment d'abandon, difficulté à faire reconnaître une maladie, soupçons envers les discours publics et perte de confiance dans les mots mêmes qui devraient protéger. Cette dimension explique pourquoi l'ouvrage dépasse le cadre local. Il interroge toute société confrontée à un risque majeur qui informe, qui décide, qui supporte les conséquences et qui possède le pouvoir de définir ce qui compte comme une vérité recevable. Quatrièmement, le deuil. la maternité et la vie familiale après Tchernobyl. Parmi les dimensions les plus marquantes du livre figure la manière dont Tchernobyl pénètre les relations familiales. La catastrophe ne se limite pas aux victimes directement exposées, elle modifie les liens entre conjoints, entre parents et enfance, ainsi que les décisions relatives à la naissance et à l'avenir. Les paroles recueillies font entendre la difficulté de soigner ou d'accompagner un proche lorsque le corps malade devient aussi un objet de crainte en raison de la contamination. Elle montre également la violence de devoir choisir entre rester dans un lieu aimé et protéger sa famille. La maternité occupe une place particulièrement sensible, car la peur des atteintes à venir transforme une expérience habituellement associée à la continuité de la vie en source d'incertitude. Alexievitch ne traite pas ces situations comme de simples cas émotionnels destinés à illustrer une thèse. Elle révèle que les conséquences du désastre sont aussi affectives, corporelles et symboliques. Les catégories de mort, de maladie, de soins et de parenté doivent être repensées dans un environnement où le danger persiste sans forme visible. Cette attention aux relations proches évite une représentation abstraite de la catastrophe. Elle rappelle que les grandes décisions politiques et techniques se prolongent dans les chambres d'hôpital, les cuisines, les villages évacués et les conversations familiales. Le livre restitue ainsi la dignité de vie confrontée à des choix sans solution pleinement satisfaisante. En dernier lieu, une œuvre de mémoire entre documents, montage et littérature, la singularité de la supplication provient aussi de sa forme. Svetlana Alexievitch part d'entrevues menées auprès de nombreux témoins, mais elle ne publie pas une simple transcription brute. Les paroles sont sélectionnées, découpées et organisées afin de produire une composition. Cette pratique situe le livre à la frontière du journalisme, de l'histoire orale, du témoignage et de la littérature. Elle permet de faire émerger des motifs communs comme la peur, le déracinement, la fidélité à une terre contaminée ou le sentiment de vivre dans un futur déjà présent. Elle demande aussi une lecture attentive, les voix constituent une vérité humaine et mémorielle, sans remplacer à elles seules les archives, les études médicales ou l'analyse historique. Le livre ne cherche pas à établir un bilan définitif de Tchernobyl. Il travaille plutôt ce que les institutions et les récits dominants laissent souvent à la marge les souvenirs fragmentaires, les émotions contradictoires et les mots imparfaits des personnes touchées. Cette orientation explique sa portée éthique. Lire devient un exercice d'écoute qui oblige à considérer les témoins non comme des illustrations d'un drame connu, mais comme des sujets capables de formuler leur propre expérience. La dimension littéraire ne diminue donc pas la gravité documentaire de l'ouvrage. Elle donne une forme durable à des voix menacées par l'oubli, la dispersion et la simplification. En conclusion, la supplication convient au lecteur qui cherche à comprendre Tchernobyl au-delà de son statut de catastrophe historique ou de dossier scientifique. Il intéressera particulièrement les personnes attirées par la littérature documentaire, l'histoire orale, les études sur les risques technologiques et les réflexions sur la mémoire collective. Sa lecture peut être éprouvante car elle confronte sans détour aux effets de la maladie, du deuil, de l'exil intérieur et de la défiance envers les institutions. En contrepartie, elle apporte une compréhension plus concrète de ce que signifie vivre après un désastre durable, non seulement survivre à un événement, mais habiter un espace, un corps et un avenir devenu incertain. Par rapport aux synthèses historiques ou aux enquêtes techniques, le livre se distingue par son refus du point de vue surplombant. Alexievitch ne remplace pas les savoirs scientifiques nécessaires. Elle révèle ce que ces savoirs ne peuvent exprimer seuls, soit la texture émotionnelle, morale et sociale des existences affectées. Par rapport à de nombreux récits de catastrophes, son originalité tient aussi à la construction polyphonique. Aucune voix ne clôt le sens de Tchernobyl et le lecteur doit accueillir une pluralité de vécus parfois discordants. Cette méthode fait de l'ouvrage une œuvre de mémoire active plutôt qu'un simple document sur le passé. Le livre aide ainsi à penser les liens entre vérité publique, vulnérabilité individuelle et responsabilité collective face aux catastrophes dont les conséquences traversent les générations. Si vous souhaitez soutenir Svetlana Alexievitch, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.